Bah, je vous remercie de votre présence, d'avoir bravé la neige. Et je remercie aussi toute l'équipe de la Fondation Michalski donc, qui m'accueille en résidence. Et donc ce soir, je vais vous parler donc, de ma rencontre avec l'œuvre de cet écrivain, Lumière Couteau, que j'ai la joie et l'honneur de traduire depuis maintenant 14 ans. Et c'est une œuvre qui, tour à tour drôle, bouleversante, poétique, nous entraîne sur des chemins mystérieux et inattendus, et elle nous enjoint de nous débarrasser de nos idées préconçues afin de nous laisser pénétrer par l'autre côté, l'autre pays. Et en tant que lectrice première de son œuvre que je vais traduire, c'est un voyage donc, dans la langue que j'éprouve toujours en premier lieu. Et une fois le voyage achevé, en fait, les images et les métaphores que donc, j'aurai engrangées pendant cette phase de lecture vont s'inscrire durablement en moi, et ensuite, j'essaierai autant que faire se peut de les faire entendre au lecteur. Et après cette phase donc, de lecture, il se passe parfois donc, un mois ou deux, même parfois davantage, afin que le texte vraiment s'imprègne en moi. En fait, je travaille par couche. Je fais au moins trois versions, au début même beaucoup plus, de ma traduction. La première, si vous voulez, la première version, c'est un peu comme quand on faisait des versions latines. Donc, c'est un peu comme une sorte de transcription presque de l'original. Donc, c'est une langue qui est à mi-chemin entre le portugais et le français. La deuxième version, elle est déjà plus proche, enfin, elle aborde la rive du français. Et enfin, la troisième, j'espère, aura accompli son voyage. Et donc, pour vous parler de tout ça plus concrètement, si je puis dire, j'ai choisi trois livres qui sont pour moi, en fait, emblématiques de l'œuvre de Miyakoto et de mon travail. Alors, d'abord, je vais présenter un petit peu qui est Miyakoto. Donc, Miyakoto est le fils du poète Fernando Couto. Il est né au Mozambique en 1955 dans la ville portuaire de Beira. Il s'est engagé encore étudiant aux côtés du Frelimo dans la lutte pour l'indépendance du Mozambique. Et ensuite, il a été journaliste dans divers organes de presse au Mozambique toujours. Et en 1983, il a publié son premier recueil de poésie, Reis d'Orvalho, à l'Association des écrivains mozambicains. En fait, Miyakoto est également biologiste, et donc il se déplace régulièrement dans tout le Mozambique. Et cette connaissance étroite du terrain et ses rencontres avec ses habitants sont une source d'inspiration inépuisable. D'ailleurs, Miyakoto se définit lui-même aussi comme quelqu'un qui serait une sorte de traducteur ou d'interprète de tous ces différents mondes et cultures qu'on va trouver au Mozambique. Donc son œuvre est composée de romans, de nouvelles et d'essais. Elle est traduite donc, dans une trentaine de pays et elle a été couronnée de nombreux prix internationaux. Alors, en fait, Miyakoto se définit lui-même comme un blanc qui est africain, un athée non pratiquant, un poète qui écrit en prose, un homme qui a un nom de femme, et un scientifique qui a peu de certitudes sur la science, et un écrivain en terre d'oralité. Et en fait, ce qui fascine d'entrée de jeu, c'est son art en fait, de raconter vraiment des histoires, en fait. Donc, des histoires d'hommes, de femmes, de vieillards, sages ou pas, d'enfants visionnaires, et ce sont autant de destinées humaines qui témoignent de ce que le poète brésilien Carlos Drummond de Andrade nommait « o sentimento do mundo », le sentiment du monde. En effet, le monde ou les mondes de Miyakoto sont infiniment poreux. Donc le ciel et la mer, par exemple, il est courant de voyager dans le ciel pour aller pêcher, par exemple. La vie et la mort, les ancêtres et les rêves, l'homme et l'animal. Et les métamorphoses sont extrêmement nombreuses. Par exemple, on peut se métamorphoser en lion. Là, je suis un humain, tout à l'heure, je pourrais être une lionne. Et donc, l'homme est un élément du vivant, au même titre que le monde animal et végétal. Ainsi, par exemple, les arbres témoignent du passage du temps et d'une relation au sacré. Et en fait, quand on lit son œuvre, on y croise des êtres qui s'arborent, se dauphinisent, divaranguent, se plonantent, leurs têtes s'hirondellent, ils chantent pleurs de la terre dans les airs pour semer du grélin, leurs yeux lucioles, parfois illuminés. En fait, c'est quelques mots comme ça que je viens dégrainer, et il y en a vraiment des centaines, et notamment donc, dans le premier livre dont je vais parler, qui est Histoire révélée, rendre son écriture vraiment reconnaissable entre toutes, et en font, pour moi, l'un des écrivains de langue portugaise vraiment les plus inventifs. Alors, je voudrais vous lire un petit passage de ce que Miyakoto dit de la langue, dans un petit texte qui s'appelle « L'usophonie », qui a été traduit en français aux éditions Chandelle. Donc la langue, donc, il parle de la langue. « J'aspire à ce moment où elle se désidiome, se convertissant en un corps sans impératif de structure ou de règle. C'est cet évanouissement grammatical dans lequel le portugais perd tous les sens que je désire. Dans ce moment de chaos et de perte, la langue est perméable à d'autres motifs. Elle se laisse métisser et devient plus féconde. Ce n'est qu'alors que la langue est voyager, amoureuse d'autres voix et d'autres temps. Si la raison en est la poésie, et ma cause est uniquement celle-là, la création poétique, alors l'important n'est pas tant la langue, ni même combien elle nous est maternelle, le plus important est cette autre langue que nous parlons avant même de naître. » Et donc, comme je le disais, cette transformation de la langue donc, en un corps sans impératif, de structure ou de règle, se retrouve donc au cœur de ces 23 nouvelles, donc Histoire révélée, qui emprunte donc la forme du conte, de la parabole ou de la chronique journalistique. Et en fait, il faut savoir que dans ces nouvelles, les créations lexicales, les mots tronqués, les mots valises, les idiomatismes, les proverbes fixes et détournés, si vous voulez, il y en a à foison, parfois en une seule ligne, ce qui rend évidemment la traduction extrêmement complexe, comme vous pouvez l'imaginer. Et évidemment, toute la question est là, comment donc traduire des textes qui travaillent une langue dans la langue, c'est-à-dire que l'ancrage dans la langue portugaise serait tel que ce dialogue au sein du portugais ne serait pas discible dans une autre langue. Donc la question, est-ce qu'on peut traduire éventuellement, voilà, ces nouvelles-là en tout cas. Comment traduire des textes qui inscrivent la poésie dans le récit, puisque ce sont aussi des histoires qu'on peut lire comme des contes, et en même temps qui ont une teneur poétique extrêmement puissante. Et donc, pour tenter de répondre à cette question, je vais vous lire d'abord une nouvelle donc, qui est extraite de ce recueil. Il faut savoir que ce recueil, j'ai mis plus de 3 ans à traduire, parce que vraiment c'était extrêmement complexe et je me heurtais presque à une résistance telle de la langue que j'ai cru que je n'allais pas y arriver, pour tout dire. Et après cette lecture, donc, je commenterai avec vous quelques aspects de cette traduction. Et en fait, je reprends ici une communication que j'avais faite en 2017 à un colloque organisé par l'Université Paris Diderot sur la tâche poétique du traducteur. Donc cette nouvelle s'intitule « Nos arbres du temps », donc en français « Dans les eaux du temps ». Jusque-là, tout va bien. Alors, je ne suis pas lectrice professionnelle, donc... Mon grand-père, ces jours-là, m'emmenait le long du fleuve, encasé dans son petit conche. Il ramait, lent, ne faisant qu'effleurer sa rame au fil de l'eau. Le petit bateau devinait, vague de ci, vague de là, paraissant avancer plus seul qu'un tronc des plus abandonnés. Mais vous allez où ? C'était l'inquiétude de ma mère. Le vieux souriait. Les dents chez lui étaient un article indéfini. Vovô était de ceux qui se taisent parce qu'ils savent, et de ceux qui parlent, même sans rien dire. « On sera de retour avant de sortir, » répondait-il. Même moi, je ne savais pas ce qu'il poursuivait. Pas du poisson, en tout cas. Car le filet restait là, à languir sur le banc. Une chose était sûre, l'incertaine heure venue, à la nuit tombée, il me prenait la main et me tirait sur la rive. Sa façon de me serrer était celle d'un aveugle décané. Cependant, c'était lui qui me guidait, un pas devant moi. Je m'étonnais de sa parfaite maigreur, tout entier, musculine. Grand-père était un homme en flagrante enfance, toujours enthousiasmé par la nouveauté de vivre. On entrait dans le petit bateau, nos pieds semblaient frapper sur le ventre d'un tambour, la pirogue cahotée, ensommeillée. Avant de partir, le vieux se penchait sur l'un des côtés et recueillait un filet d'eau avec sa main en conque. Et moi, je l'imitais. Toujours au gré de l'eau, n'oublie jamais. C'était sa recommandation. Prendre de l'eau à contre-courant peut porter malheur. Il ne faut pas contrarier les esprits qui coulent. Puis, on voyageait jusqu'au grand lac où notre petit fleuve se jetait. C'était le lieu des créatures interdites. Tout ce qui s'y exhibait en fin de compte s'inventait d'exister, car à cet endroit, la frontière entre l'eau et la terre se perdait. Dans ces inquiètes accalmies, sur les zones nénuphardées, nous étions les seuls qui comptaient. Notre petit bateau se tenait là, immobile, somnolant dans le doux bercement, silencieux, grand-père scrutait les rives lointaines. Tout alentour baignait en bruine hallucination, ombre composée de la lumière même, tel le matin éternellement endormi. Nous restions ainsi, comme en prière, tellement immobiles qu'on semblait parfaits. Brusquement, mon grand-père se levait dans la pirogue. Avec le balancement, le bateau nous renversait presque. Le vieux, excité, faisait des signes. Il prenait son tissu rouge et l'agitait avec détermination. À qui faisait-il signe? Peut-être à personne. Jamais, pas même un instant, je n'ai aperçu par là d'âme de celui-ci ou de l'autre monde. Mais grand-père agitait son tissu. Tu ne vois pas là-bas, sur la rive, derrière le brouillard? Je ne voyais pas. Mais il insistait, déboutonnant ses nerfs. Pas là-bas, là-bas. Tu ne vois pas le tissu blanc qui se danse? Pour moi, c'était plutôt la brume absolue et les redoutables au-delà où l'horizon se perd. Après, mon vieux perdait le mirage et se recueillait, replié dans son silence. Et on rentrait, voyageant sans la compagnie d'un mot.